France Culture.
Si la Révolution française, en commençant par abolir les privilèges le 4 août 1789 et jusqu'au Code civil, a profondément transformé l'héritage, elle n'a pas, par là même, pour autant, contribué à la réduction d'inégalités de richesse qui n'ont eu de cesse de s'accentuer au cours du siècle suivant, avant de marquer le pas au tournant du XXe siècle du fait de nouvelles lois sur la fiscalité. Mais ça fait pourtant désormais plus de 50 ans que ces inégalités de revenus, comme de patrimoine, progressent au point d'être plus flagrantes encore qu'au XIXe siècle. Comment l'expliquer? Pourquoi est-il si difficile d'inscrire durablement la question des successions, de leur fiscalité, mais pas seulement, bien au-delà de leur nature politique, dans le débat public? Mélanie Plouvier a mené une enquête historique et philosophique. Elle est cette semaine l'invitée de La Suite dans les idées.
France Culture, La Suite dans les idées, Sylvain Bourmont.
Et c'est toujours d'héritage dont il sera question dans la deuxième partie de l'émission, mais dans une autre acception. On parlera plus de la manière dont on se transmet le capital économique, on parlera de la manière dont se transmet le capital culturel en particulier, puisque Julie Timmerman a mis en scène un texte de Julien Avril, Les Héritiers, qui est une sorte d'adaptation du fameux texte de 1964, co-signé par Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron. Ça, c'est la deuxième partie de l'émission. On commence avec vous, Mélanie Plouvier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, maîtresse de conférences à l'Université de Côte d'Azur. Et vous publiez aux éditions La Découverte, l'injustice en héritage, repenser la transmission du patrimoine. Alors, on sait à peu près dans quelle situation on se trouve, mais c'est toujours bien de le rappeler. On le sait notamment depuis la publicisation importante des travaux de Thomas Piketty, auquel vous rendez hommage en le citant. Ça fait partie de l'un de ceux, c'est pas le seul, ils sont nombreux maintenant à travailler à la mesure des inégalités de revenus et de patrimoine, qui sont considérables en France aujourd'hui, qui sont repartis à la hausse. On pensait qu'on était sur une tendance, qu'il y avait là une sorte de sens de l'histoire, en quelque sorte, une tendance à l'abaissement, puisque depuis l'invention de l'impôt sur le revenu, enfin, toutes les grandes lois de la Troisième République, les inégalités avaient reculé un petit peu. Et puis, en fait, pour des tas de raisons qui tiennent à la transformation, notamment du capitalisme, à sa financiarisation, mais aussi pour des raisons plus politiques, les choses ont changé. Et ce qui est assez incompréhensible, et peut-être pourrait-on commencer par là avant de venir sur les périodes historiques qui vous occupent dans ce livre, ce qui est assez incompréhensible, c'est au fond, quand on regarde les débats lors des récentes élections, c'est à quel point, au-delà des différences qui sont marquées entre la droite et la gauche, on trouve des points communs aussi, notamment cette difficulté à placer la question de la succession au cœur, au centre du débat, alors même qu'en fait, une très large majorité des citoyens et des citoyennes françaises auraient à y gagner à tous les sens du terme, Mélanie Plouvier.
Oui, effectivement, donc depuis les travaux de Thomas Piketty, ce qu'on appelle le retour de l'héritage est bien documenté. La part de l'héritage dans les ressources totales des ménages a retrouvé un niveau comparable aujourd'hui à celui qu'il détenait au XIXe siècle. Et cela façonne une société d'héritiers, c'est-à-dire une société dans laquelle l'héritage pèse plus que le travail pour l'obtention de certaines positions patrimoniales. Et ça introduit un point de comparaison possible, fort, entre notre société contemporaine et la société française, par exemple, du XIXe siècle. Ces inégalités de patrimoine posent des problèmes de justice sociale. Par là même, elle contribue à une société dans laquelle le patrimoine est fortement concentré. Il y a un chiffre qui me marque fortement, qui est le fait que aujourd'hui, les 50% de la population la plus pauvre détiennent moins de 5% du patrimoine total, c'est-à-dire très peu.
C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas grand-chose à transmettre.
Ils n'ont pas grand-chose.
Quand le moment de la transmission arrive.
Quand le moment de la transmission arrive, il n'y a pas grand-chose à transmettre. Et pour schématiser, un petit nombre de personnes transmettent beaucoup et le grand nombre transmet peu. Et là, il y a un point de comparaison avec la société du 19e siècle.
Mais il y a une différence avec le 19e et là, c'est un autre économiste, André Masson. Qui remarque que du fait de l'allongement de la durée de la vie, en particulier, on n'hérite pas au même âge aujourd'hui qu'à l'époque, au 19e siècle, loin s'en faut. Et aujourd'hui, c'est plutôt vers 60 ans qu'on hérite de son dernier parent. Et ce qui fait que, en fait, aujourd'hui, le capital est détenu principalement par des gens très vieux dans ce pays. Ça a des incidences économiques assez notables.
C'est là un point de différence majeur entre le 19e siècle et aujourd'hui. En 1820, on héritait en moyenne à l'âge de 25 ans. Il suffit de penser aux personnages balzaciens.
Les héritiers chez Balzac
ont environ 25 ans. Et l'écueil possible de cet héritage précoce, c'est le fait qu'il dilapide la fortune parentale. Aujourd'hui, on hérite en moyenne à 60 ans en pleine propriété. Et on le devine, les usages d'un patrimoine hérité à 25 ans ou à 60 ans ne sont pas les mêmes. J'ai appelé ça dans l'ouvrage la seigneurisation de l'héritage qui induit une seigneurisation des usages du patrimoine.
On ne fait pas le même genre d'investissement.
Exactement. On ne fait pas la même chose à 60 ans. Concrètement, les seniors qui donc héritent environ à 60 ans, au moment du départ à la retraite, vont sécuriser cette épargne dans des placements à court terme, placements immobiliers, assurance vie, en prévoyance de la future possible grande dépendance qu'il pourrait connaître. Et l'enjeu est considérable parce que ça ajoute au problème de justice sociale, à savoir cette concentration patrimoniale entre certaines mains, un problème de justice intergénérationnelle. Dans la mesure où, aujourd'hui, les flux d'héritage vont de personnes qui ont 80 ans environ vers des personnes de 60 ans. Et on mesure combien les justifications de l'héritage, de la transmission familiale du patrimoine s'en trouvent changées. On ne peut plus justifier comme on le faisait antérieurement, ou en tout cas il y a une mauvaise foi à justifier l'héritage par le fait que l'on veuille que ses enfants aient un point de départ plus élevé que celui que l'on a nous-mêmes eu, dans la mesure où cet héritage arrive à un âge
on
60 ans. On n'est plus enfant. Les héritiers, enfin, quand on justifie l'héritage familial.
On a des petits-enfants, soi-même.
Exactement.
En fait. Et c'est assez étonnant que cette situation que vous venez très bien de décrire, qui est assez peu souvent partagée et décrite dans les médias, n'ait pas été non plus construite comme une question politique majeure. Et c'est d'autant plus surprenant si on la compare à ces moments qui vous ont intéressé dans l'histoire depuis la Révolution française et qui ont donné à voir, au contraire, des débats très très vifs sur cette question de l'héritage. Des débats que vous vous proposez de revisiter dans ce livre, et on va le faire ensemble ce soir, parce que ça donne des idées, peut-être, pour reconfigurer la manière dont se pose la question de la succession aujourd'hui dans la France contemporaine. Vous commencez, le livre est construit en deux parties. Une première s'intéresse à la manière dont la Révolution française, entendue au sens large, depuis 1789 jusqu'au Code civil, a pensé, non seulement pensé, mais transformé en droit positif des affaires de succession. Et puis, la deuxième partie du livre est consacrée à la manière dont le débat autour des successions et de l'héritage s'est traduit dans l'espace public du 19e siècle parmi des auteurs importants. Et on y reviendra. Mais commençons par la Révolution française. Moi, j'ai appris énormément de choses. C'est vrai que, bon, la nuit du 4 août, tout le monde connaît, mais on peut pas résumer à ça. Le Code civil, c'est pareil, tout le monde connaît. Mais au fond, le plus important, c'est peut-être ni l'un ni l'autre. C'est la grande loi sur l'héritage, en particulier sur laquelle vous vous arrêtez, Mélanie Pluvier.
Exactement. Alors, l'acmé de la réflexion révolutionnaire sur les successions, c'est la loi dite de Nivose, qui est la loi du 6 janvier 1794, qui pose pour toutes les successions sur l'ensemble du territoire français le principe du partage égal entre les enfants. qu'est-ce qu'il y avait avant la Révolution française ? Avant la Révolution française, il y avait une très grande diversité de pratiques successorales. On ne transmettait pas de la même manière selon la localité. On ne transmettait pas de la même manière selon les biens transmis. Les biens nobles ne se transmettaient pas de la même manière que les biens roturiers. On ne transmettait pas de la même manière selon la personne que l'on était. Et la Révolution française opère une véritable unification en affirmant qu'il y a une seule règle de transmission successorale, quel que soit le type de bien, quel que soit le type de personne, quel que soit le lieu où l'on se trouve. Cette règle, c'est celle du partage égal, autant pour le cadet que pour l'aîné, autant pour les sœurs que pour les frères. Et ce faisant, les révolutionnaires s'opposent frontalement à la règle de primogéniture masculine qui prévalait pour une partie des transmissions et qui faisait bénéficier à l'aîné mâle l'essentiel du patrimoine. Donc la Révolution française, de ce point de vue, a posé les bases de notre système successoral.
C'est un changement considérable.
C'est un changement considérable.
C'est pas produit de la même manière, avec la même ampleur dans la plupart des autres pays.
Alors, on a initié de ce point de vue un mouvement. Le Code civil a ensuite est né dans les pays européens, dans les différents pays européens. Ce qui me semble extrêmement important, c'est que chez les députés révolutionnaires qui mettent en place, ça s'est pas fait en un jour. Hein. Vous voyez, entre 1789 et 1794, il y a eu du temps qui s'est écoulé. Ça n'a pas été
des débats parlementaires très riches.
Exactement. Alors, les débats d'avril 1794. 91 sont d'une beauté. Ils devraient être un jour mis en scène tellement il y a une dramaturgie toute particulière. À la tribune se succèdent Mirabeau, Robespierre, Pétion de Villeneuve et ils discutent sur la question des successions. Ce qui est très intéressant, c'est que dans ces débats et dans cette loi se met en place notre système successoral. Nous sommes de ce point de vue les héritiers en matière successorale des révolutionnaires, mais ils le font en poussant plus loin que nous ne le faisons le curseur de l'égalité. En particulier, les députés révolutionnaires souhaitaient et ont poussé cette égalité vraiment jusqu'à son terme, qu'il ne puisse y avoir aucune inégalité entre les enfants, aucune restauration possible du pouvoir despotique du père orientant une partie de son patrimoine vers l'un des enfants. Et ils ont été extrêmement critiques à l'égard de ce que l'on appelle la liberté testamentaire. L'idée était vraiment de restreindre cette liberté de tester, c'est-à-dire la liberté du propriétaire de disposer de ses biens comme il l'entend pour après sa mort, de restreindre cette liberté testamentaire à la portion congrue.
L'objectif derrière ça, c'est évidemment de régler des affaires civiles, des affaires familiales, mais c'est aussi de viser une certaine égalité sociale. C'est pas uniquement réservé, je dirais, à l'organisation de la vie des familles, même si ça c'est très important et on y reviendra avec une proposition de loi dont vous parlez qui est étonnante.
Alors, effectivement, ce qui surprend à la lecture de la loi, des motifs de la loi, des débats parlementaires qui ont précédé l'adoption de cette loi, ce qui surprend, et ce qui interroge notre conception contemporaine de l'héritage, c'est que le droit successoral y est conçu comme un lieu où se joue la distribution des fortunes. Et ça, je pense qu'on l'a oublié, mais ce que nous disent les révolutionnaires, c'est que quand on fait une loi successorale, quand le législateur décide d'une certaine loi successorale, il décide d'une certaine distribution des fortunes. Et je crois qu'on a oublié ce pouvoir économique fort
de redistribution, en fait.
D'organisation de l'économie.
Et de partage des richesses.
À même le droit successoral. En d'autres termes, le droit successoral n'est pas que du droit, c'est aussi de l'économie. Et le législateur, par là même, a une prise sur la manière dont il a décidé de ce que les biens deviennent à la mort de leur propriétaire. Et ce qui est assez fascinant pour nous, qui avons quelque peu oublié cette idée, cette thèse philosophique, c'est que ça veut dire que là, il y a un lieu démocratique possible d'action du juridique sur l'économique.
Je faisais référence à une proposition, c'est pas devenu une loi, mais vous y consacrez un chapitre. Là, l'idée, c'est de faire en sorte de se servir de la succession pour transformer la famille, la conception même, en fait, de la famille, en réinventant l'héritage avec ce qui s'appelle l'adoption obligatoire.
Oui, c'est une proposition de loi tout à fait surprenante qui a été formulée en 1793 par un certain Agier, qui l'a déposée auprès de la Convention. Donc, Agier propose, de manière à répartir mieux les héritages, il propose que toute famille qui a moins de 3 enfants et un certain niveau de fortune soit obligée d'adopter. Alors, cette proposition nous choque. On se dit, mais c'est pas possible, l'adoption obligatoire, ça serait horrible pour les enfants pauvres adoptés. On a du mal à concevoir cette proposition comme acceptable. Elle est en fait assez intéressante. D'une part, parce qu'elle donne à voir ce mécanisme de vraiment visé par les révolutionnaires de morcellement des héritages. Le problème, ce que vise très concrètement Agier, c'est les stratégies de l'aristocratie, les stratégies démographiques visant à restreindre le nombre d'enfants, les stratégies de l'enfant unique, pour ne pas, en régime de partage...
Leur capital, leur
exactement,
leur
régime de partage égal, comment faire pour conserver une forte concentration du patrimoine, avoir peu d'enfants. Et donc, contre cette stratégie qui se met en place dès la Révolution française, les révolutionnaires cherchent des moyens, tous les moyens possibles dans le droit pour morceler les héritages, pour diviser les héritages entre le plus grand nombre possible d'héritiers. La proposition de loi d'Agier vise ce morcellement en augmentant le chiffre dénominateur, c'est-à-dire le nombre d'enfants entre lesquels le partage va s'opérer. Alors, la proposition nous choque pourquoi ? Parce que nous avons du mal à imaginer. Alors, Agier met des conditions. Il faut qu'il y ait un certain niveau de fortune et les enfants adoptés sont des enfants pauvres. Cette proposition nous choque parce que ça nous fait envisager une circulation des enfants, des familles pauvres vers les familles riches ou des branches pauvres de la famille vers les branches riches de la famille. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que Agier propose une modalité post-mortem de sa proposition, c'est-à-dire que s'il n'y a pas eu d'adoption durant la vie, le conseil de famille, et si le conseil de famille n'y arrive pas, le juge, distribuera à des enfants pauvres la part du patrimoine. Donc ça, c'est une forme d'adoption.
Oui, c'est pas une adoption pour élever les enfants, c'est une adoption en vue de partage.
Voilà, post-mortem.
D'enfants qui sont en général devenus des adultes à l'âge où ça,
exactement,
ça s'opère.
Et là,
en fait,
on se rend compte, on comprend la philosophie de ces propositions. Il s'agit de modifier également la famille, par là même la société, de manière à utiliser l'héritage pour que la distribution du patrimoine soit plus équitable. Ça aussi, nous l'avons complètement oublié.
Alors ça, c'est ce qui concerne la Révolution française dans votre livre, entendu au sens large. Et après, vous vous intéressez à cette longue période qui s'ouvre après que ces changements aient été mis en œuvre dans le droit positif. Et il n'y aura pas d'autres changements majeurs avant le début du XXe siècle. Mais ce XIXe siècle va être traversé de débats, néanmoins, autour de la question de l'héritage. Et là, ce n'est pas les débats parlementaires qui vont vous intéresser, ce sont des débats intellectuels, des contributions d'auteurs. Alors, peut-être le plus célèbre de ce débat, celui qu'on a retenu, c'est celui qui va opposer Marx et Bakounine en particulier sur la question de savoir, au fond, s'il faut s'en prendre aux successions ou plutôt à la question de la détention première du capital. Et de ce point de vue-là, Bakounine est persuadé que Marx se trompe et que, en fait, s'attaquer à l'héritage, c'est une manière d'agir sur le partage de la propriété des biens de production, contrairement à ce que prétend Marx. Ça, c'est un débat qui peut être le plus connu de tous, que vous n'abordez pas centralement, parce que vous êtes allé voir des auteurs qu'on lit moins sur ces questions, des auteurs français qui relèvent de la philosophie, mais aussi des sciences sociales naissantes. Vous commencez par Fichte et vous arrivez à Émile Durkheim.
Alors effectivement, le débat Marx-Bakounine qui se situe en 1869, c'est le point d'arrivée en deçà duquel je suis remontée. Qu'est-ce qui se passe donc on est en 1869 lors de la première internationale au congrès de Bâle, et les crispations entre Marx et Bakounine sont nombreuses et se cristallisent autour de la question de l'héritage. Marx considère que la question de l'héritage n'en est pas une. Ou plus exactement, c'est une question seconde. À partir du moment où il y aura collectivisation des moyens de production, la transmission familiale du patrimoine...
Ça n'existe plus.
Ça n'existe plus. Et pour Marx, c'est même ça serait un mauvais moyen de parvenir à la collectivisation, parce qu'un moyen impopulaire. Bakounine est complètement opposé à Marx sur ce point. Pour lui, l'abolition de l'héritage est le seul moyen qui permettra d'accéder, enfin d'œuvrer à la collectivisation des moyens de production. Qu'est-ce qui est intéressant dans la voie que trace Bakounine ? Il y a d'abord l'idée qu'on ne peut pas arriver à des formes de socialisation de la propriété d'un seul coup. Et que l'héritage a cet avantage de ne pas exproprier, puisque ça se fait à la mort. Littéralement, à la mort, à ce moment de suspension des droits, le bien n'appartient plus à personne, il n'appartient plus au défunt qui est sous terre, il n'appartient pas encore avant son transfert à l'héritier. Et donc là, il y a un moment de vacance des droits qui ouvre la porte à des socialisations possibles. Et donc, c'est cette voie que privilégie Bakounine. Et l'autre idée qui me paraît extrêmement intéressante, c'est que cette socialisation, elle ne se fait pas d'un coup pour tous, mais progressivement, au fil des morts. Et donc, c'est une forme de révolution graduelle qui se fait très progressivement et qui nous donne à voir dans un dispositif...
Une sorte de révolution réformiste, au fond.
Alors, réformiste,
radicale. Elle est radicale, mais elle est progressive.
Mais très progressive dans l'application, dans le déploiement de ses effets. Et surtout, une révolution l'héritage, ça existe. La suspension des droits à la mort existe. On a des dispositifs qui permettraient d'œuvrer à une socialisation.
C'est un peu le contraire du grand soir, mais c'est une manière
Mais alors, une révolution graduelle qui se fait, alors le terme peut paraître paradoxal, il est de Robespierre, qui se fait en douceur, très, très progressivement, au fil des morts, et sachant que la mort est inéluctable. Donc, ça va advenir. Ce que j'ai fait, c'est que je suis remontée en amont de Bakounine pour déceler d'autres penseurs qui avaient déployé cette même thèse.
Je disais notamment Fichte et en France les auteurs saint-simoniens. D'ailleurs, que Marx méprisait assez largement.
Effectivement, Marx était assez critique à l'égard de la secte saint-simonienne, disait-il. Alors effectivement, les penseurs ceux qui ont vraiment et qu'on a retenu d'ailleurs pour leur proposition d'abolition de l'héritage, en faisant souvent une caricature, ce sont les saint-simoniens. Donc c'est un courant de disciples de Saint-Simon. Saint-Simon lui-même n'a pas parlé de l'héritage matériel. Ce sont les saint-simoniens qui en ont fait leur combat dans les années 1830. Ils l'ont fait en considérant que la Révolution française n'avait pas été assez loin, qu'elle avait la Révolution française, selon les saint-simoniens, est parvenue à abolir la transmission héréditaire du pouvoir politique, mais elle s'est arrêtée en chemin. Elle a fait la moitié du travail.
Il faudrait faire la même chose côté économique.
Ouais, exactement. Elle a laissé la transmission héréditaire du pouvoir économique en maintenant l'héritage familial. Et ce que les saint-simoniens revendiquent, ce qu'ils appellent de leur vœu, c'est une abolition complète de ce qu'ils appellent le principe d'hérédité, qui passe par la suppression de la transmission familiale du patrimoine. Et ce qui est très intéressant chez ces auteurs, et en particulier chez leur chef de file, Prosper Enfantin, c'est que cette pensée de l'abolition de l'héritage n'est pas une pensée de l'abolition de toute forme de transmission. Bien au contraire, c'est une refondation de la transmission, puisque selon eux, l'héritage, à la mort, les biens ne doivent plus aller aux enfants. Ça, c'est le principe d'hérédité. Ils proposent de substituer à ce principe d'hérédité ce qu'ils appellent un principe de capacité, qui consiste à la mort à transférer les biens, et en particulier les moyens de production, aux travailleurs les plus capable. Et ils conçoivent vraiment une hiérarchie sociale telle que les successeurs seront les travailleurs les plus capables, avec donc un transfert vers le groupement des travailleurs et vers les travailleurs, les compagnons de travail. Ça, un des points extrêmement intéressants, c'est que cette théorie déplace la question de la transmission de la mort vers la retraite, puisque il s'agit de la transmission de l'outil de travail. Il faut y songer finalement. Est-ce que ce qu'on a à transmettre, c'est les quelques biens qu'on a réussi à accumuler au cours d'une vie, ou est-ce qu'il n'y a pas plus d'enjeux à penser cette transmission de l'ensemble des savoirs, du maniement de l'outil de travail? Et les Saint-Simoniens nous aident tout particulièrement à penser cela.
Alors, vous êtes revenu, vous disiez, en amont, à partir du fameux débat entre Marx et Bakounine des années 1860, fin des années 1860. Mais vous êtes allé un peu au-delà aussi, avec cette fois non plus un philosophe, mais un sociologue, l'un des fondateurs de la discipline en France, Émile Durkheim, qui, à la toute fin du 19e siècle, a écrit sur cette question des successions et de l'héritage dans une perspective non plus seulement économique, mais sociale et même politique. On sait aussi les liens fort que Émile Durkheim entretenait au socialisme et la manière dont il tentait d'articuler sa sociologie au socialisme.
Oui, effectivement, le chapitre se clôt sur Émile Durkheim. Alors, vous dites sociologue, il avait fait une thèse de philosophie.
Oui, même Pierre Bourdieu voilà, avait fait exactement. Une thèse de philosophie.
Mais il a fondé...
Il n'y avait pas de licence de sociologie.
Il a effectivement fondé la sociologie scientifique en France. Alors, ce que propose Durkheim, c'est de transférer l'héritage au groupement professionnel d'appartenance, ce qu'il appelle, alors d'un mot malheureux, la corporation, malheureux à cause du devenir, la réutilisation de ce terme dans le fascisme italien, mais ce que vise Durkheim à travers ce qu'il appelle la corporation, c'est un groupement professionnel démocratiquement organisé par le vote ou et co-géré par les travailleurs et les employeurs. Le point extrêmement... Deux points, si je peux, sur la proposition de Durkheim. Le premier élément qui me semble très intéressant dans sa perspective, c'est qu'il assoit sa proposition sur l'analyse sociologique des formes familiales et des formes de propriété. Pour lui, l'héritage familial, c'est un anachronisme. C'est une institution du passé qui a survécu. Qu'est-ce que c'est l'héritage familial ? C'est une persistance en régime libéral du communisme familial. Et il y a quelque chose de tout à fait... quand on lit pour la première fois cette affirmation, il y a une puissance de déstabilisation finalement, parce qu'on se rend compte que l'héritage familial... qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'héritage familial est en un sens incompatible avec les principes mêmes de la propriété privée. Et ce que affirme Durkheim, c'est que la propriété privée commence et finit avec l'individu. C'est-à-dire une propriété privée réduite, si la propriété est vraiment une propriété individuelle, c'est une propriété qui s'arrête avec l'individu.
Donc on ne peut pas la transmettre.
Et l'institution de l'héritage, l'institution de l'héritage provient de formes antérieures de propriété, à savoir de la propriété familiale régie par le communisme familial. Je pense que les libéraux devraient lire ces textes de Durkheim qui décalent le regard et qui pointent l'anachronisme possible de cette institution. Ça, c'est le premier point qui me semble extrêmement intéressant chez Durkheim. Second point qui mérite l'attention, ce que Durkheim propose, c'est financer par l'héritage de nouveaux droits sociaux. On est à la fin du 19e siècle, les protections sont peu nombreuses, en tout cas elles ne sont pas institutionnalisées socialement. Et ce que propose très concrètement Durkheim, c'est que l'héritage familial transmis au groupement professionnel serve à financer un droit à la santé, un droit face aux accidents du travail. En d'autres termes, l'héritage devient un mode de financement de l'État social. Et cette idée me semble extrêmement intéressante dans la mesure où elle nous permet de nous rendre compte que les protections familiales ne sont pas à penser de manière isolée. Les protections qu'apporte la famille, elles sont à penser dans le cadre de l'ensemble des protections possibles. Et je pense que l'attachement contemporain à l'héritage familial, de ce point de vue, provient également des faiblesses ou de l'affaiblissement en cours de notre état social.
Alors on va se demander pourquoi on parle si peu d'héritage aujourd'hui dans le débat public. Peut-être que l'une des raisons, c'est qu'on parle d'autres types d'héritage et d'autres inégalités, non moins importantes, qui ont trait non plus au capital économique, mais au capital culturel. On en parle à propos de la mise en scène, de l'adaptation pour la scène du fameux livre de sociologie de Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, les héritiers. On en parle tout de suite avec Julie Timmerman et Julien Avril qui nous rejoignent. C'est après un extrait du deuxième album de Sharp Pins qui vient de paraître, You Have a Way.
Sylvain Bourmeau.
Dans la rubrique actualité cette semaine, on parlera d'une modalité particulière du brouillage entre le public et le privé qui prend des formes très différentes. On en parlera à propos du passage d'un des secteurs à l'autre, du public au privé de certaines personnes. C'est le titre du dernier numéro de la revue Politics, Revolving Doors, qui réunit des articles qui se penchent sur cette question. Mais avant ça, on continue de parler d'héritage à la suite dans les idées. On en parle à propos du livre de Mélanie Plouvier, L'injustice en héritage, qui paraît aux éditions La Découverte. Et on en parle à propos de la mise en scène du texte Les Héritiers, qui vient d'avoir lieu dans un endroit particulier pour le spectacle vivant, la scène de l'École nationale supérieure, normale supérieure pardon, de Paris-Saclay, qui est un lieu de création. Un lieu dans lequel, il y a quelques jours, Julie Timmerman, metteuse en scène, et Julien Avril, auteur en l'occurrence, vous êtes tous les deux auteurs et metteurs en scène, mais dans cette division du travail-là, les rôles se partageaient ainsi. Vous avez donc proposé ce spectacle avec des étudiants de l'école de l'ENS Paris-Saclay. Comment ça s'est passé? D'où vient l'idée de transformer en pièce de théâtre ce livre qui n'a pas du tout la forme d'un texte dramatique au départ?
Déjà, juste pour dire un mot sur la scène de recherche, donc moi je suis artiste associée à la scène de recherche, c'est un théâtre qui est public, qui propose une programmation professionnelle, qui est située au sein de l'ENS, mais qui est vraiment un théâtre ouvert sur toute l'Île-de-France.
Qui a une programmation ouverte
au public. Voilà, une programmation, exactement.
Et qui est aussi un lieu de travail et de recherche et de pédagogie.
Voilà, un lieu de résidence pour les artistes, voilà. Et au sein de cette scène de recherche, il y a la nouvelle troupe du plateau de Saclay, qui est composée d'étudiants, que j'ai donc mis en scène pour la deuxième année. L'an dernier, c'était sur Brecht. Et cette année, et ce spectacle qui est produit par la nouvelle troupe a la chance d'être intégré à la programmation de la scène de recherche. Donc c'est vraiment une volonté du directeur Ulysse Baratin. Et cette année, donc, nous avons eu la chance de travailler sur la pièce de Julien Avril d'après une pièce de Nichet que Nichet avait...
Jacques Nichet, donc.
Voilà, Jacques Nichet, donc fondateur de l'Aquarium, voilà, avait mis en scène en mai 68. Après le livre de Bourdieu et Passeron de 64.
Alors on sait qu'il y a des...
On s'inscrit dans une
filiation. Il y a presque un héritage et une tradition de l'adaptation de Pierre Bourdieu au théâtre. On sait que La Misère du Monde a été adaptée à de nombreuses reprises. Mais là, je ne savais pas, avant de le découvrir, que Jacques Nichet avait très tôt, dès 68, mis en scène ce livre qui n'avait que 4 ans à l'époque.
Oui, alors il était, il faisait partie de la troupe de théâtre de l'ENS d'Ulm, du coup, et donc cette pièce, Les Héritiers, est un peu la réponse de Paris-Saclay à l'ENS d'Ulm, donc c'est assez rigolo pour ça. Et ça s'inscrit en fait aussi dans une volonté de rendre hommage pour le soixantenaire de la parution du livre de Passeron et Bourdieu. On avait envie de vraiment de faire un travail de palimpseste, c'est-à-dire il y avait l'œuvre de Bourdieu et Passeron, il y avait l'œuvre de Jacques Nichet, qui aussi fait partie d'une esthétique des années 60 et tout, qui est un peu surannée maintenant. Et il y avait aussi la volonté de l'actualiser, d'en faire quelque chose qui puisse parler aux étudiants, aux générations d'aujourd'hui qui subissent, des questions d'héritage.
Qui sont toujours des héritiers.
Voilà, qui sont toujours soit des héritiers, soit des transfuges de classe.
Même si les modalités de l'héritage ont probablement évolué.
Oui, ont évolué, mais en tout cas, il y a des choses qui sont similaires, des choses qui sont transformées. Il fallait pouvoir avoir un regard sur ça. Et moi, je me suis penché à la fois sur ces deux textes. Et puis, il y avait aussi les travaux de recherche d'un élève de l'école qui s'appelle Tristan Igrao et qui a travaillé sur les pratiques culturelles des élèves normaliens et notamment les relations qu'ils entretenaient avec la scène de recherche. Donc j'avais ce travail-là à faire de synthèse et essayer de trouver des petits principes qui puissent mettre en valeur, mettre en lumière les interactions du quotidien prouvent que il suffit pas d'avoir le concours en fait pour tout d'un coup être un héritier ou en tout cas faire partie de l'élite française intellectuelle qui va réussir à transformer le pays avec sa pensée, avec la science, etc. et tout, à tous les niveaux sur le plateau de Saclay, parce qu'il y a vraiment plein de labos différents. Il faut aussi se constituer un capital symbolique et il y a des situations dans lesquelles, on se retrouve, comme une forme de personnage de naïf parce qu'on n'a pas les codes, on n'a pas les clés. Et moi, je me suis beaucoup amusé à trouver des principes par rapport à ça. Et ce projet-là, il était aussi inscrit avec une une volonté de montrer un peu, de faire un jeu de miroir en fait avec entre. C'est aussi à ça que sert la scène de recherche. Il y a des miroirs qui sont plus ou moins fidèles. Il y a des pièces qui. C'est un lieu de dialogue entre les chercheurs et les. C'est pensé comme un laboratoire entre les chercheurs et les artistes. Donc forcément, on fait œuvre de représentation de ce qui se passe dans les labos en fait. Et là, on fait aussi vraiment œuvre de ce qui se passe dans les départements d'enseignement, dans les couloirs, dans les fêtes des étudiants, dans la cantine. Enfin voilà, on avait envie de faire ça.
C'était particulièrement intéressant de le faire avec les étudiants qui vivent eux-mêmes ce qui est raconté dans la pièce. Oui, donc il y avait une mise en abîme.
On sent qu'ils ont dû injecter. Il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de langage ou de lexique très contemporain dans l'adaptation de ce texte qui a 60 ans.
Oui, Julien a complètement puisé dans la réalité des étudiants aujourd'hui et donc dans le travail de Tristan Ingrao. Et je dois dire qu'en travaillant avec les étudiants, c'est étonnant de voir à quel point c'est un miroir pour eux, à la fois pour ceux qui sont sur scène et ceux qui sont dans la salle, parce que même si c'est tout public et qu'on avait vraiment toutes sortes de publics, évidemment les étudiants, les chercheurs ont été particulièrement intéressés de découvrir le spectacle, et donc le miroir était de tous les côtés.
Mélanie Plouvier, vous n'avez pas vu le spectacle, moi non plus, il y a eu deux représentations, c'est ça, peut-être en espérant qu'il y en ait d'autres, mais en tous les cas on a pu lire le texte.
Effectivement, j'ai lu le texte et j'ai beaucoup ri, alors d'un rire qui était parfois amer, voire cathartique, c'est selon, puisque votre pièce est une chronique tragi-comique des formes contemporaines de la vie universitaire, qui met en lumière ses grandeurs. J'ai beaucoup aimé les passages sur le dépassement de soi dans la science, mais aussi ses travers, et en particulier ses transformations structurelles très très récentes. Et en tant qu'universitaire, je n'ai pas été indifférente à tout cela. Je ne pensais pas qu'on pouvait faire des blagues sur les UE découvertes, sur les passerelles, mais j'ai ri de ces blagues. Alors j'en ai profité pour revenir au texte de Bourdieu et Passeron, ce texte de 1964, Les héritiers, qui était en fait une série d'études sur la population estudiantine des facultés de lettres. Et j'ai mesuré combien ce texte avait vieilli, non pas tant que ces propositions auraient perdu de leur pertinence ou de leur actualité, mais dans les changements de la population estudiantine. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que la population étudiante des facultés de lettres et de sciences humaines et sociales dont Bourdieu et Passeron parlent, a considérablement changé entre 1964 et aujourd'hui. Et très concrètement, aujourd'hui, moi, mes étudiants en philosophie, ce sont des étudiants qui viennent des classes populaires, qui viennent des classes moyennes, qui très souvent sont obligés de travailler pour financer leurs études. En d'autres termes, ce ne sont plus ces héritiers. Et je comprends également le déplacement que vous avez opéré, de ce point de vue-là, de la simple fac de lettres vers l'école normale supérieure.
C'est ce que disait Tristan, ouais. Il y a une démocratisation de l'enseignement supérieur, mais les écoles supérieures, les écoles, elles, restent très élitistes.
Exactement, mais en même temps, ça nous donne à voir aussi que par-delà la reproduction du capital culturel, scolaire, symbolique, l'université a quand même, dans ces 50 dernières années, réussi alors avec difficulté, on fait ce qu'on peut, mais on œuvre, on travaille à cette démocratisation de l'enseignement supérieur. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des lieux de reproduction, l'enseignement supérieur clair. Privé en est un, mais
absolument. Mais et puis par ailleurs, je pense que c'est très différent dans une école normale supérieure et dans une université comme celle dans laquelle vous enseignez. On n'a pas tout à fait non plus nécessairement les mêmes conditions d'études.
Non, et puis il y a la le plateau de Saclay, c'est vraiment un endroit particulier en plus. Enfin, il y a de nombreuses grandes écoles qui sont au même endroit. Il faut prendre le RER.
C'est un personnage, ce paysage,
oui,
d'ailleurs.
Voilà. Au début, moi, j'en ai presque fait un personnage. Je me suis amusé à dramatiser. Même la figure de Bourdieu qui est maintenant une pop star, ça m'a plu en fait d'en faire une icône, quelqu'un qui reviendrait parler aujourd'hui, qu'est-ce qu'il aurait à dire, etc.
Grâce à l'IA et aux algorithmes.
Oui, c'est ça, et à la science, à la robotique, etc. Mais
en fait, assez loin du beau portrait que vient de le consacrer, on en avait parlé dans cette émission de Denis Podalydès, en fait au plus juste. Je le disais, on espère qu'on aura l'occasion de voir d'avoir ce travail. C'est un travail fragile parce qu'il repose sur des étudiants qui, par définition, ne sont pas étudiants toute leur vie.
Oui, mais ils ont vraiment pris le travail à bras-le-corps. Et moi, je suis très, très heureuse de ce travail. Et je pense que, alors, moi qui adore lire, et voilà, je pense qu'au théâtre, on entend certaines choses qu'on entend peut-être moins par d'autres médias. Et je suis très heureuse qu'on puisse parler de ça sur scène. Alors, juste un mot sur la forme que Julien a utilisée. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le jeu qu'il fait avec la référence un peu au théâtre didactique, aux pièces didactiques de Brecht, tout en jouant de ces codes-là. La référence au jeu de plateau, c'est-à-dire il y a évidemment tous les sens du mot plateau. Il y a le plateau de Saclay, il y a le plateau de théâtre, et puis il y a les jeux de plateau dans lesquels les étudiants jouent des rôles et peuvent
apprendre les règles,
ou pas, apprennent les règles, ont les codes ou ne les ont pas. Donc tout ça, c'était passionnant à mettre en scène. Voilà, moi j'utilise des plateaux
et à emboîter les plateaux,
exactement,
les plateaux,
pour
les
faire
uns
comme une espèce d'échiquier sur lesquels ces étudiants seraient comme des pions ou décideraient de leur avenir, et ou des laboratoires dans lesquels on observe ces souris transfuges. Voilà. Donc c'est intéressant, on a joué vraiment avec l'aspect brechtien.
Merci beaucoup. On espère qu'on pourra voir le spectacle, on trouvera la référence sur la page de l'émission, ainsi que évidemment celle du livre de Mélanie Plouvier. Merci à tous les deux.
France Culture, la suite dans les idées. Sylvain Bourmont.
Et oui, le temps passe vite, mais il est l'heure de la rubrique actualité avec vous, Cécile Robert, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politiste, professeur de sciences politiques à Sciences Po Lyon, et vous venez de diriger ou de co-diriger Revolving Doors, c'est le titre du numéro 146 de la revue Politics, un numéro dans lequel vous avez regroupé un certain nombre d'articles qui traitent de ce phénomène de la circulation des élites, mais d'une circulation des élites qui est un objet classique de la sociologie particulière, puisqu'il s'agit de suivre pas à pas les allées, les retours, les allers-retours entre le public et le privé d'un certain type de personnel, de professionnel, de la politique, mais pas seulement, ou en tous les cas de l'administration ou des grandes entreprises. Cécile Robert.
Tout à fait. Alors ce numéro qui a été dirigé avec mes deux collègues Sébastien Michon et Willy Beauvalet, c'est un numéro qui effectivement essaye d'explorer ce phénomène qu'on a plutôt nommé depuis les États-Unis initialement, pour décrire un peu les passages depuis les administrations liées à la présidence et jusque au milieu du lobbying, et dont on constate depuis un certain nombre d'années qu'elles sont aussi très visibles en Europe et notamment dans notre pays. Et du coup, on piste à travers les différents articles, en effet, plutôt des passages des élus et des fonctionnaires vers le secteur de la représentation des intérêts, à travers des exemples qui sont à la fois français, européens, mais aussi péruviens, en l'occurrence, puisqu'on a un article d'Arthur Morenas qui parle du passage des ministères de l'économie et des finances péruviens de ce ministère de gens qui vont du public au privé.
L'inverse. Il y a un article de Guillaume Courty qui travaille depuis très longtemps sur la question du lobbying et des lobbyistes en particulier, sur la manière dont ça se passe dans le champ du pouvoir en France depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron en fait à l'Élysée.
Tout à fait. Alors cet article-là, il met en évidence des éléments qu'en fait on retrouve un petit peu partout dans nos exemples, c'est-à-dire Guillaume Courty qui travaille sur les lobbyistes de la place parisienne, en effet, montre trois choses. D'abord le fait qu'on a donc bien un phénomène très important, y compris que c'était pas du tout une exclusivité américaine, qu'on ça augmente. Effectivement, en France, on a quand même une augmentation, on va dire une visibilité aussi plus importante depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, avec notamment un certain nombre de ministres dont les différents gouvernements qui ont eu des trajectoires comme ça. Et ce que montre donc Guillaume Courty, c'est qu'on a des va-et-vient de plus en plus fréquents, c'est-à-dire qu'on n'a pas simplement des trajectoires qui vont du public vers le privé avec des gens qui repartent vers des entreprises privées, on a des gens qui vont et viennent qui traversent cette frontière plusieurs fois dans leur vie professionnelle, parfois à un rythme important. Que c'est des gens qui peuvent se déplacer sur l'échiquier politique, Ils peuvent parfois revenir dans une équipe politique différente de celle qu'ils ont quittée et qui sont plus nécessairement dépendants non plus du rythme électoral pour effectuer ces allers-retours. Donc il y a une espèce de grande complexification et effectivement à l'échelle de ceux dont ils retracent la carrière de façon très minutieuse, on remarque cette complexification des trajectoires, mais on le retrouve à l'échelle européenne également.
Oui, parce que il y a deux articles en particulier qui concernent l'Europe, dont l'un que vous avez co-signé, Cécile Robert.
Alors, on en a un effectivement qui parle en effet des députés européens de la délégation française à Bruxelles, dont on montre qu'ils sont à la fois des gens qui vont, pour un certain nombre d'entre eux, mais dans une proportion relativement limitée, travailler pour la représentation d'intérêts. Donc au total, tout nationalisé confondu, on est autour de moins de 15% des anciens députés européens qui font du revolving door à part entière, c'est-à-dire qu'ils vont aller se faire embaucher par des cabinets de lobbying, et on en a plus parmi leurs anciens assistants, par exemple autour de 40%. Mais ce qu'on constate, nous, c'est que au-delà même de, et ça montre en fait la difficulté à pister le phénomène et à l'objectiver statistiquement, au-delà même des gens qui vont aller exercer à temps plein un métier de lobbyiste à la sortie du Parlement européen, on a tout un ensemble de pratiques qui consistent à consacrer un peu de son temps à la sortie du Parlement pour conseiller tel ou tel cabinet. Donc on a des gens qui travaillent pour plusieurs cabinets de lobbying, voire pour plusieurs entreprises en tant que conseiller. Donc ça, c'est plutôt effectivement ce qu'on observe, nous, du côté des députés européens. Et puis on a d'autres, effectivement, des analyses qui sont conduites, là, cette fois-ci, sur le personnel des agences, avec un article de Yorgos Vassalos qui a travaillé sur le secteur financier et qui, lui, objectif des allées et venues d'un certain nombre de gens qui travaillent pour le secteur de la finance au moment où, à l'échelle européenne, on tente de réglementer ce secteur suite à la crise financière de 2008. Et ce qu'il observe, c'est que tant à la Commission européenne que dans l'agence qui est en charge de ces questions qu'au Parlement européen, ces gens qui vont circuler depuis le public vers le privé et retour, sont aussi des gens qui vont, que ces circulations vont de pair avec une forme d'inertie quant au projet de régulation et qui vont plutôt ces circulations sont plutôt concomitantes d'une restriction des ambitions en matière de réglementation. Donc, grosso modo, ça correspond à une période où les projets sont vidés de leur substance et où finalement on arrive à des réglementations, des projets de régulation de la finance qui sont bien en deçà de ce qu'on avait imaginé au sortir de la crise financière.
Vous voulez dire par exemple que, à propos de cet article de Yorgos Vassalos, ce qu'il montre, c'est que des gens qui au départ viennent du secteur public et qui sont amenés à quitter le secteur public pour occuper des postes parfois importants, mieux rémunérés sans doute dans le secteur privé, reviennent à un certain moment de leur carrière dans le public avec une connaissance très très forte, meilleure du secteur privé, mais avec aussi une sorte d'agenda qu'on peut qualifier, vous avez utilisé le mot, d'inertie en fait. Voilà, ils sont là plutôt pour faire en sorte que les choses n'avancent pas, plutôt que de proposer un autre agenda où toutes les cas de figure sont possibles en fait.
En fait, tous les cas de figure sont possibles. Cette hypothèse qui a été posée dès les années 70 par Stigler, qui est prix Nobel d'économie, qui parle de la capture réglementaire, c'est vraiment l'idée que lorsqu'on a des recrutements d'expérimentés des entreprises dans les agences qui sont censées les réguler, on va avoir des gens qui auront un agenda visant à peser sur les politiques publiques pour les tourner à leur profit, éventuellement au détriment de leurs concurrents. Ça, en fait, c'est difficile d'objectiver ça de façon extrêmement précise parce que c'est plus compliqué. Ce que montre, par exemple, l'article de Yorgos Vassalos, c'est plutôt que on a, et c'est globalement ce qu'on observe aussi dans nos différents exemples, on a des espaces dans le secteur public où on va avoir des populations de gens qui sont des revolvers, des gens qui bougent, qui vont aller dans le privé, venir du privé, etc. Et que ces gens-là ont effectivement tendance à, on va dire, être plus convaincus de la façon de concevoir le problème qui est mobilisé dans les secteurs privés où ils ont soit fait leur classe, soit où ils vont retourner. C'est pas forcément une conversion stratégique, par exemple de gens qui voudraient aller se faire embaucher deux mois plus tard dans le secteur privé, et c'est pas forcément aussi caricatural que ça, mais par contre il y a effectivement très nettement une concomitance entre ces circulations et ces opérations de transformation des politiques publiques. Et par ailleurs, effectivement, des gens qui ont tendance à circuler, qui sont plutôt à trouver sociologiquement parmi les gens qui vont avoir tendance par ailleurs à s'aligner sur les positions du secteur privé. Donc on a effectivement, en tout cas, cet effet assez important sur les politiques publiques très clairement qu'on observe sur différents exemples.
Alors, comme vous le disiez, ce phénomène n'est pas nouveau. Un certain nombre de pays en ont pris conscience au point de mettre en place des dispositifs de surveillance de ces passages entre le public et le privé, notamment dans le sens du passage du public vers le privé. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui a occupé des fonctions importantes dans l'administration, il peut pas aller n'importe où après dans le privé s'il s'est trouvé en situation de relation de travail avec certaines organisations privées, les choses sont compliquées, il n'aura pas nécessairement le feu vert. Donc, comment s'est mise en place cette surveillance, dans quelle mesure est-elle efficace? Il y a un article qui permet dans ce numéro peut-être d'en prendre en partie la mesure, c'est celui qui est consacré aux référents déontologues qui ont été mis en place dans les différentes administrations et qui se pose la question de savoir, c'est Lola Avril qui a écrit l'article, s'il s'agit de gardes frontières ou de passeurs.
Alors, c'est effectivement un article qui montre très bien, encore une fois, quelque chose qu'on observe dans différents espaces, qui est que on a effectivement une réglementation progressive de ces passages, de ces revolving doors, on va dire depuis une dizaine, vingtaine d'années, un petit peu plus récemment à l'échelle française que à l'échelle européenne. Elle est vraie, enfin globalement, elle s'applique aussi bien aux fonctionnaires européens que aux commissaires, que aux parlementaires, en tout cas à l'échelle européenne. En revanche, ce que montre bien Lola Avril, c'est que finalement, cette réglementation, elle a plutôt vocation à justifier, légitimer ces trajectoires, plutôt qu'à les empêcher, puisque globalement, elle ne les empêche pas du tout. On a à la fois des décisions globalement favorables, parfois assorties de mesures de sauvegarde, enfin de mesures, pardon, de précaution, mais qui ne sont pas contrôlées. Donc globalement, on n'interdit pas les trajectoires de ce type-là. Par ailleurs, on ne surveille que, et ça c'est une chose qui est importante, on ne surveille que le passage du public vers le privé. On est beaucoup moins attentif au recrutement depuis le secteur privé vers le secteur public. On n'est pas capable de documenter l'ensemble des reconversions, notamment celles que j'évoquais, par exemple, à propos des députés européens. Et puis, il y a une vision donc très positive qui est portée notamment par ces déontologues, mais plus généralement dans les administrations, aussi bien d'ailleurs européennes que françaises, qui consiste à dire que, d'une part, pour garder l'attractivité de la fonction publique, il faut permettre aux individus qui la peuplent de pouvoir travailler à un moment quand ils le souhaiteront dans le secteur privé, et que d'autre part, c'est très bénéfique à la fonction publique que de pouvoir disposer de gens qui éventuellement viendraient du secteur privé. Donc ça s'appuie sur un discours qui consiste à considérer que c'est plutôt une chance et qu'on peut pister dans le discours sur ce qu'on appelle le New Public Management depuis la fin des années 90, on va dire, en tout cas à l'échelle européenne, qui très nettement contribue à mettre en cause en fait l'existence de ces frontières publiques privées et à souhaiter que la fonction publique s'aligne sur le secteur privé, notamment sous cet aspect du recrutement. Donc c'est ce que montre très bien Lola Avril. Ce qui est intéressant, ce qu'elle montre par ailleurs, c'est que si on empêche parfois le revolving doors, c'est simplement pour les gens, les catégories les plus modestes, notamment des gens qui souhaitent avoir un cumul d'activités, peut-être pour faire face aussi à des rémunérations qui sont globalement en baisse. Et alors, à cela,
je vais devoir vous interrompre, Cécile Robert. C'est passionnant. Je vous renvoie toutes et tous à ce numéro de l'important importante revue de sciences politiques, Politics, Revolving Door. On trouve la référence sur la page de l'émission et toutes les références de ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Une page sur laquelle vous pouvez écouter l'émission et vous abonner au podcast. C'était la suite dans les idées, Sylvain Bourmeau avec Séam Boutata. À la technique aujourd'hui, François Saint-Jour. À la réalisation, Cassandre Puel.